Bonjour chers amis, bienvenue dans la deuxième partie de Restons Courtois, où j'ai le plaisir d'accueillir Manon Bouquin. Vous êtes député RN de la 4e circonscription de l'Hérault, si je ne m'abuse, et Joseph Taïeffé, où vous êtes directeur général de Place d'Alliance,
secrétaire général, comme le Parti communiste.
Voilà, secrétaire général de Place d'Alliance, qui n'est pas un parti communiste, mais qui est un syndicat professionnel qui
patronal,
réunit les plasturgistes.
Exactement.
Voilà. Et, alors, on va pas forcément parler plastique tout de suite, même si justement, c'est un des plaisirs de recevoir Manon Bouquin. Ça fait partie des députés qui travaillent et des députés qui bossent et des députés qui connaissent des sujets qui sont autres que juste ceux que l'actualité fait bouillonner. Et donc, avec elle, on n'a pas droit à l'écume, on a droit à ce qui est au fond de la marmite, on a droit à la viande, on a droit au sucre, c'est beaucoup mieux. Manon Bouquin, on va quand même parler un petit peu, pardonnez-moi, d'écume. En ce moment, l'Hérault est victime d'une espèce de vague de rêve party ahurissante. Et donc, c'est vous qui êtes
malheureusement,
une députée de là-bas.
Département. On est victime d'un succès. Non, sérieusement, la préfète, effectivement, avait fait un plan anti-rêve party pour empêcher cela, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on a eu une rêve party à Claret, qui se trouve au nord de ma circonscription, 2500 personnes. À peu près 1000 véhicules. Et en fait, ils s'organisent via des groupes privés. Ils sont plusieurs milliers dessus. Et face à cela, la gendarmerie est débordée. On a eu le coup de... En fait, ils n'ont pas été délogés. Il a fallu attendre qu'ils partent d'eux-mêmes. Pour la gendarmerie, ça a coûté 105 000 euros, l'opération du week-end. Il y a eu deux organisateurs qui ont été arrêtés. Mais à l'état actuel, le pire qu'ils puissent avoir, c'est une contravention. Il y a un mois, deux mois, on a voté à l'Assemblée nationale de manière... c'était pas un sujet consensuel, on a voté la loi Riposte qui doit passer au Sénat, qui transformerait cette contravention en délit passible d'une amende de 30 000 euros et de 6 mois de prison. En fait, il y a un moment, il faut être dissuasif. Ils ne risquent rien actuellement, les types. Ils font ce qu'ils veulent. Les gendarmes ont arrêté. Ils viennent à pied, ils peuvent arrêter les véhicules, vérifier la drogue, etc. Mais de toute façon, ils viennent à pied, ils sont très bien organisés, ils s'arrangent par des systèmes de stop. Et puis, on parle d'un territoire qui, veut dire, c'est de la moyenne montagne, c'est des petites montagnes. Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué à arrêter. Et les élus locaux sont démunis face à cela, parce qu'au final, il y a un sentiment de laisser-faire. Moi, j'avais rencontré le propriétaire. Je me suis déplacée quand j'ai vu qu'il y avait une rêve partie qui se faisait. Je suis allée au toupet un peu. Je suis passée devant la ferme. J'ai toqué à la porte et je suis tombée sur le propriétaire qui est un homme assagé, agriculteur, retraité.
En vous voyant, a eu l'impression de ne pas parler à une teufeuse.
Non. Mais je lui ai bien dit, il était effondré. Il me racontait. Il fait maison d'hôte aussi. Il a une piscine. Et en fait, le matin, il avait trouvé des teufeurs dans sa piscine. Il leur avait dit de partir, enfin, c'est une propriété privée. Et les toffeurs l'ont bousculé, l'ont mis à terre, lui ont volé sa canne. Et il était effondré, en fait. Il me parlait des bêtes qui étaient éparpillées, on ne savait où, vaches, des chèvres, etc. Il ne savait pas dans quel état il allait retrouver le terrain. Et alors moi, j'avais pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer ça. Je me suis pris peut-être ma première, ce qu'on appelle, désolé d'expression, de shitstorm numérique.
Tempête de merde, disons-le tranquillement.
Dire que j'ai été harcelée pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux, avec des qualificatifs très fleuris que je ne répéterai pas ici, mais il y avait ce sentiment, ouais, t'es qu'une rabat-joie, t'es qu'une un aspirateur à fun en quelque sorte. Mais en fait, derrière cela, derrière ce côté faisons la fête de manière libre, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des drames pour les agriculteurs, pour les riverains. Le principe de propriété privée leur passe totalement au-dessus. Et d'ailleurs, les rêves parties pourraient être autorisées. Par contre, il faut qu'ils paient leur sécurité. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des rêves parties inopinées comme ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas payer la sécurité privée. Mais il y a un moment, en fait, si on veut passer certains loisirs, il faut en payer le prix.
Alors, avec un peu de chance, il y a 8 enceintes pour la sono, les structures métalliques, le groupe électrogène, tout a été saisi. Donc, savoir si la justice va décider que ça vaut le coup de le rendre à l'organisateur ou au contraire de le garder. Enfin, voilà, ce projet de loi.
Et là, il faut que la loi Riposte soit adoptée au Sénat. Alors, est-ce que. Je ne sais pas si on peut requalifier, enfin, veut dire, quand la loi sera adoptée, c'est possible de requalifier les faits, pas forcément,
mais au moins ça peut. Le côté des lois rétroactives, ça sent un peu mauvais pour la démocratie.
Voilà,
quand même.
Mais bien sûr, évidemment, bon, c'est normal, mais pour l'avenir, on espère que ça ne sera pas suffisant, mais qu'au moins. En fait, c'est un délit, ce n'est pas une contravention. Et ça peut être. On espère que la loi soit rapidement adoptée et mise en œuvre.
Alors, à propos de lois adoptées, donc il y a la loi sur tout ce qui est usage du plastique et notamment de la vaisselle en plastique dans la restauration collective. Je me suis rendu compte qu'en 2025, vous aviez posé, je crois, une question au ministre, à un ministre en charge de ce genre de questions, où vous lui demandiez pourquoi est-ce que on autorisait la vaisselle en plastique et dans la restauration collective. Et j'ai l'impression que vous avez changé d'avis sur la vaisselle en plastique.
C'était une question écrite souvent à base de... Genre, il y a un quidam qui sollicite et moi, je me fais courroie de transmission entre le quidam en question et le gouvernement. C'était une question. Et en fait, entre-temps, ce qui est intéressant, là, effectivement, il y a eu une PPL dite transpartisane. Quand ils disent transpartisane, ça veut dire tout le monde sauf le RN, mais ça, on a l'habitude, hein, qui parlait d'élargir le spectre d'interdiction de la vaisselle en plastique dans les cantines, en parlant aussi des contenants, notamment les gobelets. Et je posais la question en commission du développement durable, est-ce que ça concerne le plastique à usage unique, auquel cas la majorité des cantines scolaires, de toute façon, sont déjà mises en conformité sur ce plan-là, il n'y a pas de plastique à usage unique dans les cantines scolaires. Et auquel cas, la PPL aurait été juste une simple déclaration d'affichage, du greenwashing, on va dire, à peu de frais. Ou alors, est-ce que ça concerne aussi le plastique réemployable, hein? Et auquel cas, bon, ça pose la question des industriels qui se mettent en conformité si, au final, pour qu'au final, à la fin, on leur dise, bah, vous pouvez pas, on en finit totalement avec le
même
plastique.
Même si votre vaisselle en plastique est lavable et réutilisable, c'est pas grave,
voilà,
on s'en
exactement.
Fiche, c'est du plastique.
Et donc, je pose la question en commission du développement durable dans laquelle je siège, hein. On me répond, notamment une députée, je peux citer son nom, elle s'appelle Véronique Rioton, qui est co-rapporteure de la loi GEC, qui est une grande loi de gestion des déchets qui date d'il y a quelques années, qui me traite d'incompétente en disant, évidemment, vous créez des fake news, il s'agit seulement de la PPL, enfin, il s'agit seulement de plastique à usage unique. Le plastique réemployable n'est pas touché. Ok, je suis un peu étonnée, je fais, mais enfin... Ok, je veux dire, après tout, si la co-rapporteure de la loi AGEC le dit, c'est que ça doit être vrai, même si le texte est un peu flou. Hein. Et en fait, je repose la question en séance. Je dois assister plusieurs fois et le ministre finit par dire « ça touche le réemployable hein. ». Et en fait, ils ont fait exprès d'être flous pour que notamment les LR tombent dans le panneau. Ce qui n'a pas manqué de faire, ces crétins sont tombés dans le panneau. C'est les seuls au RN. Hein. À l'Assemblée nationale à avoir voté contre cette proposition de loi parce que on peut pas exiger des industriels et monsieur Taïfé va en parler j'imagine on peut pas exiger des industriels qui se mettent en conformité où on va leur imposer une éco-conception on toute une série de règles notamment on a imposé le réemployable en plastique dans les fast-food on est entouré de plastique de ce qu'on porte de ce micro cette table nos vêtements donc en fait si,
Lucien Rabouille lui-même
voilà,
non mais, est entièrement
voilà,
plastiqué.
Il a une bonne plastique.
Je veux dire, on ne peut pas exiger et à côté de ça, donc le plastique, on l'autoriserait partout, mais dans la cantine des enfants, on l'interdirait définitivement, même les réemployables. Hein. Donc ça n'avait pas de sens. Mais pourtant, à l'Assemblée nationale, RN accepté, a voté de manière unanime cette proposition de loi. Donc il y a un côté extrêmement idéologue qui va évidemment contre le sens... contre le sens de nos intérêts industriels. Le plastique est une matière essentielle. Et bien sûr, il faut développer le réemployable. Ça me paraît être une bonne option. Mais de là, l'interdire totalement, alors que pendant des années, des efforts ont été faits, notamment sur le réemployable et aussi sur le recyclable. En fait, à quoi ça... On va en parler aussi des questions de recyclabilité. J'étais au ministère de l'Environnement ce matin pour en parler avec le ministre. En fait... Si on met en place une politique de recyclage ambitieuse, ce que moi j'appelle de mes vœux, parce que c'est de l'industrie, c'est des emplois locaux, c'est aussi une puissance, une occasion de réindustrialisation, bah, on ne décide pas de sortir du plastique. Or, la loi AGEC, la fameuse loi AGEC dont je parlais, donc anti-gaspillage et économie circulaire, cette loi AGEC prévoit qu'une sortie progressive du plastique, notamment à usage unique, mais ça peut aller plus loin, déjà une division par deux d'ici 2030 et une sortie d'ici 2040. Donc à quoi ça sert en fait de mettre en place le recyclage hein, avec ce que ça va coûter pour qu'au final on s'oriente vers une solution décroissante sans plastique du tout.
Alors Joseph Taïefé, justement à Plastalliance, vous étiez assez énervé quand cette loi a été votée et Pour plusieurs raisons, et notamment celle que Manon Bouquin a avancée, c'est-à-dire à partir du moment où on met une filière de recyclage et à partir du moment où les industriels sont capables de produire un plastique réemployable, bah, donc autrement dit, il n'y a plus de problème de gâchis. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, à partir du moment où on force les industriels à imaginer des solutions qui sont des solutions coûteuses, qui nécessitent de l'innovation, qui est l'un des mantras du gouvernement Macron, pourquoi diable ne pas les laisser aller au bout de cette innovation et faire la preuve que ces plastiques réemployables sont parfaitement sains et en fait inoffensifs pour la santé?
En fait, cette proposition de loi, ça révèle vraiment la véritable tartufferie de l'écologie. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on a commencé à nous dire « ce sont les déchets ». C'est le plastique à usage unique, le jetable, il faut réduire. Ok, il y a des industriels qui sont passés à du plastique réutilisable, réemployable, comme Madame la députée vient de le dire. Le gouvernement lui-même, par la loi AGEC, a enlevé les cartons à usage unique, notamment les gobelets cartonnés quand vous mangez dans un fast-food américain, notamment sur place. C'est remplacé par du plastique, c'est un gobelet en plastique, en matière qu'on appelle du tritan. Et les cornets de frites qui sont chaudes, hein, je précise, au contact des frites en tant que telles, c'est du polypropylène, réutilisable, lavable. Donc ça passe. Dans les hôpitaux, vous avez du plastique réemployable. Les plateaux, des carafes d'eau, etc., des gobelets, etc. Dans les festivals, vous avez des gobelets, vous avez tous vu des éco-cups, etc.
Notamment dans les rêves parties.
Dans les rêves parties. Heureusement que ce sont des gobelets en plastique, parce que je me rappelle d'ailleurs que le maire de Paris, pendant les récentes émeutes, avait dit que c'était les bouteilles en verre qui étaient responsables de la casse. Donc, en l'occurrence, qui devrait promouvoir le plastique, il y aurait moins de problèmes. Et donc, en l'occurrence, vous avez des industriels qui sont rentrés sur le réemployable, le réutilisable. Et le gouvernement et les députés, et tous les députés, sauf effectivement le Rassemblement national. Alors moi, je suis d'aucun parti politique, on est un syndicat apolitique, mais je peux faire des constats. Et je constate une chose, c'est que tous parlent de réindustrialisation, de LFI jusqu'à RN, tout le monde parle de réindustrialiser, tout le monde parle de souveraineté, tout le monde parle de créer de l'emploi. Mais au moment où on arrive au vote, ou au moment où on arrive, où on appelle à l'aide, où l'industrie appelle à l'aide et dit... On a besoin que vous nous protégiez parce que là, il est en train de se passer quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire une loi qui veut interdire tous les types de plastique, y compris une carafe d'eau. On nous dit le plastique chauffé, il y a des migrations, mais une carafe d'eau, c'est à froid. Un gobelet, c'est à froid. Il n'y a pas de migration à froid. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en l'occurrence, tous les partis de LFI jusqu'à LR, je ne sais pas s'ils ont été vraiment trompés ou s'il y a plutôt même d'ailleurs des convictions.
C'est la faute de l'avoir dit.
Il y a un pôle écologiste à LR, malheureusement, vraiment extrême. Et en l'occurrence, il n'y a que le RN qui a osé interpeller le gouvernement. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo que vous aviez faite excellente sur, sur effectivement la réponse du gouvernement qui reconnaît que ce sont tous les plastiques. Et de l'autre côté, effectivement, j'étais aussi avec Madame la députée au Grand Raoult organisé par le ministre de l'écologie qui avait invité les ONG, l'industrie, les collectivités et qui dit voilà, on va parler de sobriété, mais on veut aussi recycler. Alors moi, j'explique une chose au ministre, s'il n'a toujours pas compris, c'est que pour recycler, il faut du gisement, il faut massifier. Ça veut dire il faut du volume. Comme vous l'avez dit, Madame la députée, dans votre question ce matin, d'ailleurs, au ministre, si on réduit, on va dire, la part d'emballage plastique sur le marché, le recyclage n'est pas rentable. Donc, à un moment donné, il faudrait savoir. On investit des millions, voire des milliards dans le recyclage. C'est très bien. D'ailleurs, il faut le faire. Parce qu'en l'occurrence, actuellement, on paye 1,5 milliard d'euros à l'Union européenne parce que nous sommes l'avant-dernier européen dans le recyclage des emballages plastiques. Donc, 25% de taux de recyclage quand les Belges, ils sont à 60. Et la Slovaquie à 60. Tous les pays baltes sont entre 45 et 50. Nous, on est à 25% quand même, la 8e économie mondiale. Et de l'autre côté, comme vous l'avez dit, en 2030, il faut diminuer de moitié les bouteilles en plastique. Loi AGEC. 2040, il n'y a plus d'emballage plastique à usage unique. Alors, le problème, c'est que ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire que ce n'est pas possible pour une simple et bonne raison, c'est que l'Europe, en l'occurrence, et pour le coup, merci l'UE, quand ils font des bonnes choses, il faut aussi parfois aussi le dire, il y a une réglementation qui
a... Au revoir, Joseph Taillefer.
Non, mais quand c'est bien, il faut quand même le dire. Ils ont fait une réglementation qui a interdit d'interdire ce que l'Europe n'a pas interdit. Et en l'occurrence, cette réglementation, les bouteilles en plastique sont autorisées, d'ailleurs elles sont même protégées, la plupart des emballages plastiques sont protégés. Et donc aujourd'hui, la réglementation française est ce qu'on appelle la fameuse surtransposition. On est sur quelque chose qu'aucun pays européen n'a prévu. Je précise qu'il n'y a aucun pays dans le monde, d'ailleurs, dans le monde qui a interdit le plastique dans les cantines quand même. Donc il n'y a pas une réglementation comme ça qu'on ait vu ailleurs. Et en l'occurrence, guidés par des ONG, guidés par des associations qui ont lancé une pétition, d'ailleurs, qui a fait depuis un an et demi à peu près 35 000 signatures sur un site d'ailleurs non sécurisé. Quand je vois que, par exemple, les LR pour l'acétamipride, avec 2 millions de signatures identifiées, ils ont quand même dit « on va quand même faire une loi pour réautoriser l'acétamipride », et pour le plastique dans les cantines, il y a eu 35 000 signatures non identifiées, et ils nous disent « non, on va soutenir ». On va voter avec LFI, on va voter avec les écolos et on va voter avec tous les autres. Et donc, à un moment donné, nous, ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois, et c'est pas la première fois d'ailleurs, hein, on a déjà eu un autre épisode en 2025 où on avait invité l'ensemble des partis politiques au niveau européen à venir d'ailleurs discuter justement du sujet des cantines. Le seul parti qui est venu, c'est le RN, c'était la députée Mathilde Androuet. Ni Bellamy est venu, ni Manon Aubry, ni personne, ni Sarah Knafo d'ailleurs. Que le RN est venu. Donc à chaque fois qu'on appelle tout le monde, les seuls qui viennent pour parler industrie, pour parler emploi, bah c'est le RN. Donc après vous dites que vous êtes pour le RN. Non, moi je fais que constater. Donc si demain vous aviez d'autres partis qui se réveillaient sur l'industrie, je le souhaite, parce qu'en l'occurrence, l'industrie n'est ni à droite ni à gauche. C'est une affaire vraiment de souveraineté nationale. C'est une affaire qui doit... Le Parti communiste devrait se battre. Les ouvriers, ce sont aussi, d'une certaine manière, j'imagine, un peu leurs électeurs ou leurs anciens électeurs. S'il n'y a plus d'usines, il n'y a plus d'ouvriers. Donc, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi, en fait, au final, toute l'Europe, en fait, aujourd'hui, investit dans le recyclage, investit dans les nouvelles technologies. Il n'y a pas de loi AGEC comme ça. Et nous, en France, on a encore des réglementations et on a encore ces associations qui ont une influence que je ne retrouve dans aucun pays européen.
Alors, Manon Bouquin, donc cette exception française malheureuse, évidemment, vous la questionnez, vous interpellez le gouvernement. On voit que on vous répond avec l'intelligence et l'aménité habituelle quand c'est quelqu'un du RN qui pose une question intelligente. C'est-à-dire, on commence par vous dire que vous avez tort et après, on vous explique que vous avez raison, mais une fois que c'est trop tard. Fondamentalement, ce que le RN cherche avec cette histoire du plastique, c'est ce qu'il cherche avec les autres secteurs, c'est-à-dire à défendre une capacité française, une capacité d'industrialisation, sachant que la plasturgie regroupe en fait beaucoup de petites et moyennes entreprises.
Exactement. Et la capacité de production, elle est aussi environnementale. La moitié de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est des importations. Et il n'y aura pas de développement durable sans développement économique. L'économie circulaire doit être rentable, parce que sinon nous importerons, nous le faisons déjà trop, et le jour où on ne produira plus rien, on n'aura pas la main mise sur la qualité de ce qu'on importera, on ne pourra pas contrôler les normes sociales, environnementales, il n'y a qu'en produisant en fait qu'on peut avoir la main mise sur la qualité. Les normes sont les plus hautes au monde aujourd'hui. Mmh. Et la capacité de la production, qu'elle soit agricole ou industrielle, elle est primordiale parce qu'un pays ne peut pas être souverain sans cela.
Cher Manon Bouquin, monsieur parlait des cantines scolaires justement. Lorsque nous étions écoliers, le plastique, l'usage massif pour notre économie d'objets en plastique jetables, recyclables, réemployables ou autres, avait mauvaise presse. C'était vraiment plastique apocalypse. On nous parlait par exemple des 5 siècles qu'il fallait pour que se décompose un mégot de cigarette, le filtre d'un mégot de cigarette. On nous parlait de ces malheureux sacs en plastique qu'on jette négligemment après avoir fait ses courses au supermarché et qui atterrissent dans l'estomac des cormorans ou des poissons et qui du coup se retrouvent dans notre assiette dès lors qu'ils sont pêchés et qu'on ingurgite et qu'ils développent des cancers. On nous parlait aussi du fameux 7e continent. Vous savez que les courants marins rassemblent à coups de déchets, de choses que l'on jette négligemment. Enfin bref, on nous parlait vraiment de ce matériau comme étant un facteur d'apocalypse, au même titre que peut l'être le carbone, le béton avec l'artificialisation de la terre, ou encore le Nutella avec l'huile de palme. Voilà. J'aurais plutôt dit... peu importe. Cher Manon Bouquin, alors... N'est-ce pas le travail d'un essayiste ou encore d'une députée que d'aller un peu chatouiller ou gratter justement cette légende noire qui entoure un matériel, après tout, d'usage courant ?
Eh bien, c'est une préoccupation légitime, évidemment, c'est préoccupation des seuls légitimes. Et justement, en fait, on vise un secteur, je pense à la bouteille plastique, qui a le plus investi dans l'éco-conception. C'est peut-être un des seuls secteurs qui l'ait vraiment fait. Ça va être le bouchon solidaire qui nous rentre pas dans le nez, hein. Il faut tourner la bouteille, on peut boire sans que ça...
C'est une invention française qui a été reprise par la Commission européenne.
C'est l'allègement du poids des bouteilles. Il n'y a jamais un secteur n'a autant investi dans l'éco-conception. C'est perfectible. Aujourd'hui, le problème, c'est de récupérer les déchets pour pouvoir les recycler. Et j'en reviens à mon propos de tout à l'heure. Je pense que le recyclage est une bonne option entre impératif, un bon compromis, on va dire, entre impératif industriel de production et évidemment logique de préservation environnementale, logique de souveraineté économique aussi, avec le fait qu'on garde le gisement, la matière première en France et qu'on on est capable de le recycler. J'ai visité plusieurs entreprises, je pense par exemple aux Sources Alma qui sont à Saint-Yor, qui me montrent à partir de plastique, à partir de paillettes de plastique PET, ils font ce qu'on appelle des préformes, ils soufflent dedans et ça refait une bouteille. La bouteille redevient bouteille. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une façon de prendre en compte l'environnement sans être décroissant. Et c'est quelque chose que j'ai envie de défendre parce qu'en fait, dans le choix de la loi AGEC qui veut sortir du plastique, il y a un discours de sortir du plastique tout court et aussi sortir du plastique, notamment des bouteilles, de mettre fin en canette, de mettre fin en bouteille, hein, avec, bon, c'est la fin des eaux de source. Ce serait la fin de la vente des eaux de source. Donc après, il y a aussi le choix du consommateur. Je veux dire, personnellement, je consomme de l'eau du robinet. Je n'ai pas la force de traîner les... Mais je veux dire, si les gens veulent boire de l'eau de source, qu'ils boivent de l'eau de source... Enfin, il y a un moment, on n'est pas dans un état communiste. Chacun fait ce qu'il veut. Et donc effectivement,
monsieur,
voilà, c'est la question de...
Yeah.
C'est, pardon, mais je...
Je vous en prie, pardon.
Je bois, c'est pas...
Tu sais, Michel, l'idée, c'est qu'on laisse les invités finir, en fait.
J'arrivais pas à conclure, donc c'est très bien.
On va changer les règles. Aujourd'hui, on laisse parler les invités. Tu voulais poser une question.
Cher monsieur, oui. Je suis un peu curieux, parce qu'on m'a traumatisé avec cette histoire. Vous savez, des sacs plastiques que l'on retrouve dans les goélands, etc. On est un peu sensible. Et puis qu'on retrouve dans son assiette. Y a-t-il vraiment un 8e continent, un 7e continent? Y a-t-il vraiment des particules dans tous les estomacs des animaux marins?
Est-ce que vraiment 90% de la pollution océane vient des pays du tiers-monde?
Alors, 36% de la pollution plastique dans les océans, c'est les Philippines. 36. La France, c'est 0,02. Hein. Donc, l'Europe entière, c'est 0,6. L'Asie en entier, c'est 80.
Aucun des sacs que vous avez jetés, Lucien, n'a jamais torturé un seul cormoran.
Alors, mais j'ai été négligent.
C'est cette histoire de sac qui étouffe la baleine, de déchets qu'on retrouve dans la rue, mais c'est de la déresponsabilisation. Le sac, il a pas pris ses petites jambes et ses petits bras pour arriver dans la nature. Quand vous avez quelqu'un qui utilise un couteau pour assassiner quelqu'un, vous interdisez pas le couteau à un moment donné.
On est en train de le faire.
Il faut responsabiliser aussi les personnes. Il faut responsabiliser l'usage. Et en l'occurrence, vous avez effectivement des gens qui n'ont aucun sens, on va dire, de la civilité. Vous avez d'ailleurs Vinci Autoroute avait fait tous les ans, il fait le même sondage et on a le même résultat. Un quart des personnes sur autoroute jettent leurs déchets par la fenêtre, donc quel que soit le déchet. Et en l'occurrence, vous trouvez plein de choses dans la Seine. Si vous faites une pêche à l'aimant dans la Seine, vous allez retrouver des batteries, vous allez trouver des vélos, vous allez trouver énormément de choses qui d'ailleurs avec le temps vont générer des métaux lourds également dans l'eau. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas du plastique. Aujourd'hui, le ministre, il a quand même dit une chose incroyable. Il a dit le meilleur plastique, c'est celui qu'on produit pas. C'est le plastique, mais c'est une histoire française aussi.
Il va falloir payer pour recycler quand même.
Mais je vous dis, ça fait partie de notre identité. Je veux dire que celui qui a trouvé le PVC, Henri-Victor Regnault, c'était un Français. Dupont de Nemours, c'était un Français. Joseph Zeltner, le nylon, le premier nylon français, c'était lui qui était d'ailleurs gazé à Auschwitz. Ça fait partie de notre histoire, l'industrie plastique. On est la troisième européenne. On était deuxième il y a 20 ans. On est passé troisième. Si ça continue comme ça, on va passer quatrième. C'est 120 000 emplois directs. C'est 1 500 000 emplois dans toute l'Union européenne. Et dans mon prochain livre, d'ailleurs, je le dis clairement, hein, celui qui maîtrise l'industrie des plastiques domine le monde. Je veux dire, l'Iran, avec le fameux blocus d'Hormuz, le pétrole qui a été bloqué, c'est aussi les polymères plastiques qui ont été bloqués. On avait eu des craintes, d'ailleurs, en Angleterre, en France, en Corée, sur des pénuries de seringues, des pénuries de poches de perfusion. Tout ça, c'est du plastique. Une voiture, c'est 50% de plastique, 10% de son poids. Donc, les avions, c'est pareil. Enfin, à un moment donné, sans industrie plastique, vous n'avez aucune souveraineté. Et donc, à un moment, s'il y a effectivement un problème dans des pays dans lesquels il y a des déchets, réglons là où il y a les problèmes. Hein. Je veux dire, enlever 0,02% de la pollution mondiale, ça ne changera rien à la face du monde. Et pour revenir à votre question, le continent de plastique, il n'y a pas de 7e continent de plastique. Ça a été vérifié, vous pouvez aller, il n'y a aucune image satellite qui vous montre un continent. Ça a été encore une fake news imagée qui a été donnée. Les fameuses images qui sont montrées en fait, dans les différents sites internet, c'est des sorties en fait, de fleuves dans lesquelles vous avez, en Inde par exemple, dans lesquelles vous avez énormément de déchets. Et on a l'impression que c'est la mer qui est remplie, mais ce sont quand même des montages. Il y a par contre ce qu'on appelle des vortex. complexes, c'est-à-dire des endroits où vous ne voyez rien si vous regardez, mais en regardant en détail, vous avez des petites particules de plastique ou des débris qui commencent à s'accumuler, qui tournent, on va dire, notamment la gyre, ce qu'on appelle du Pacifique. Et on sait que cette gyre, elle est causée par notamment la pêche et notamment par des pays comme les États-Unis, le Japon, et en l'occurrence, ce sont ces pays-là. Et ces pays-là, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que les ONG que nous avons ici, ils ne sont pas là-bas. Je veux dire, ou même les ONG qu'on a ici, dans d'autres pays, ils ont une autre vision. WWF en Suisse, vous aviez un Suisse tout à l'heure, il explique que ce n'est pas l'emballage qui est un problème, c'est plutôt ce qui est à l'intérieur. L'emballage en termes d'impact carbone, ce n'est pas grand-chose, c'est plutôt le contenu qui nécessite plus de carbone. En France, WWF vous explique qu'on avale une carte bleue par semaine. Donc, et ce qui est faux, ce qui a été démontré que c'était une fake news. Et en fait, la lutte contre le plastique aujourd'hui, c'est de la désinformation. C'est une guerre cognitive. L'école de guerre économique a fait 2 rapports sur ce sujet, avec des démonstrations et de preuves d'ingérence étrangère, y compris à l'Assemblée nationale. Vous avez des élus qui ont organisé des réunions, notamment, je peux en citer un, Philippe Bollot, qui notamment a invité, on va dire, une autrice dont le livre a été financé par la fondation Heinrich Boll. Je l'avais indiqué dans mon premier livre, Plastic Bashing Lintox, suite à mon premier livre, l'école de guerre a fait une enquête sur le sujet et ça s'est révélé exact. La fondation Heinrich Boll, c'est les mêmes qui attaquaient le nucléaire français. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, l'Allemagne, autant le nucléaire, j'ai envie de dire, ils n'avaient pas d'atome crochu avec le nucléaire. En revanche, sur le plastique, ils sont les numéros 1. Et donc, détruire un concurrent comme la France, qui est un pays frontalier, qui est le numéro 3, et qui quand même lui importe aussi des produits, ça peut être effectivement une stratégie de guerre économique. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas être naïf. Il faut à un moment donné prendre du recul. Regardez qu'aujourd'hui, le plastique, sans plastique, aujourd'hui, on ne ferait rien. Et comme vous l'avez dit, Madame la députée, la question n'est pas de savoir si on aura du plastique en France. La question est de savoir qui va le fabriquer. Et on le voit déjà pour les voitures. Nous avons perdu quasiment, je dis clairement, la souveraineté sur l'automobile. Même on le voit d'ailleurs au niveau de nos sous-traitants, ceux qui sont dans la plasturgie. Les seuls marchés qu'ils ont, c'est à l'export. En France, on livre quasiment plus rien. Et donc, au final, vous avez toujours autant de voitures et vous avez toujours autant de plastique dans ces voitures. Mais elles sont fabriquées ailleurs. Et donc,
il n'est plus français.
Et ils sont plus français. Et l'emballage est un produit stratégique, car où est l'emballage, là où sera votre produit.
Manon Bouquin, dans la manière dont vous défendez cette industrie du plastique, c'est vraiment à cause de ce tissu de petites entreprises qui sont réparties sur tout le territoire, où c'est aussi un problème de souveraineté. Comment un député en arrive-t-il à s'intéresser à la plasturgie plutôt qu'à...
À la base, moi, c'est pas tellement le plastique, c'est la gestion des déchets. Comme vous le savez, je suis présidente du groupe d'études sur la gestion des déchets de l'Assemblée nationale. Et donc, je m'intéresse au système de responsabilité élargie des producteurs. On en avait déjà parlé, c'est le fait que les producteurs paient une contribution sur les produits qu'ils mettent en marché, qui a pour gérer la fin de vie de leurs déchets. Et donc, du coup, ça m'a amené à rencontrer les acteurs du plastique qui paient lourdement, c'est-à-dire qui paient une éco-contribution, ce n'est pas une taxe, c'est une éco-contribution donnée à des organismes qui s'occupent de payer, de financer le bac jaune à travers les collectivités locales qui s'occupent de faire toute la collecte et de valoriser ce plastique. Et on a eu un sujet, c'était l'an dernier, projet de loi de finances 2026. Puisque la France paie une amende à l'Union européenne parce qu'elle ne recycle pas suffisamment le plastique, le gouvernement a voulu répercuter cette taxe sur les industriels du plastique. Et c'est le fameux article 21 du projet de loi de finances qui augmentait, faisait une surtaxe sur les bouteilles en plastique. Ce qui est assez injuste, effectivement, parce que comme je l'ai rappelé, ce secteur paie déjà une contribution pour la fin de vie de ses déchets. Et c'est un secteur qui a beaucoup... plus investi que vraiment beaucoup d'autres secteurs industriels sur l'éco-conception, sur l'allègement du poids des bouteilles, sur le fameux bouchon solidaire, etc., etc. Et effectivement, le problème de la Macronie, le problème de ce gouvernement depuis des décennies, c'est que dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Paf, une taxe. Et en fait, on a pour principe, nous, d'arrêter. C'est-à-dire, parfois, on est vivement décrié. On a été accusé d'être pour le cancer parce qu'en fait, on n'a pas voulu recréer une taxe.
Oui. Et les filles vous accusent d'avoir systématiquement voté contre la santé des Français.
Dès qu'on vote contre une taxe, eh bien, on est accusé de tous les maux. Mais en fait, si les taxes a marché, on serait le pays le plus performant au monde. Si une société où on avait une très lourde imposition, un très haut niveau, on va dire, de prélèvement obligatoire, ça fonctionnait, on serait le pays le plus heureux du monde, avec l'hôpital le plus performant du monde, l'école, la police, l'armée, la biodotée, avec une économie absolument florissante et un taux de chômage inexistant. Est-ce que c'est le cas ? La réponse est non.
Et effectivement, comme vous l'avez expliqué, il y a un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu de réindustrialisation dans le plastique, et on sait la contradiction du macronisme qui parle en même temps de réindustrialisation et qui en même temps fait des lois type zéro plastique, type artificialisation nette. On se demande comment on va réindustrialiser la France sans artificialiser quelques kilomètres carrés de terre ou sans avoir l'emploi de matériaux aussi élémentaires. Je rebondis sur la question de Richard de Sèze. Vous êtes très engagé sur ce sujet qui peut paraître effectivement un sujet de spécialité ou encore un sujet trivial. On se souvient que Trump, une de ses premières décisions lorsqu'il était revenu au pouvoir, avait été de remettre au goût du jour
la paille
en plastique. Il chatouillait peut-être un inconscient collectif américain, en particulier chez ses électeurs, puisque derrière la paille en plastique, on imagine par exemple la blonde qui sirote un milkshake dans une série ou dans un film, ce qui est totalement l'imaginaire de l'électeur de Donald Trump. Les électeurs du Rassemblement National font parfois l'objet, on le sait, de caricatures. On parle d'électeurs périphériques, on parle d'électeurs avec un pouvoir d'achat modeste, et puis quand on parle du plastique, on parle aussi de tout ce qui est attrait au mauvais goût. Vous voyez, n'est-ce pas? Le mauvais goût dans les baraques, les choses que mettent les gens chez eux, pas forcément très bien inspirés. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement, de votre côté, une volonté de satisfaire une demande électorale basique, de la façon, mais après tout, la plus politique et la plus clientéliste qui soit, chez vos électeurs qui aiment ce qui est jetable, ce qui n'est pas forcément très beau?
Pouvoir d'achat. Moi, je vais vous répondre, une volonté de baisser le pouvoir d'achat qui a été fortement endommagé par les politiques injuste, néfaste et bête, à dessein ou pas, j'en sais rien, d'Emmanuel Macron depuis qu'il est président de la République, depuis 2017, où jamais le pouvoir d'achat des Français s'est effondré. Et oui, le plastique, c'est un argument, hein, je veux dire, c'est un argument en plus sur, en tout cas, la préservation. Je ne dis pas que je suis pour le retour des pailles en plastique, hein. Ça, je ne dis pas. Par contre, le plastique réemployable, c'est quelque chose qui me paraît nécessaire, utile et facile à faire, facile à produire, avec un coût de production, dites-moi si je me trompe, pas énorme, qui peut durer sur la durée, qui est léger. Parce qu'on en revient, on revient à la vaisselle plastique, hein, veut dire c'est léger le plastique. Donc moi j'avais fait un amendement par exemple un peu taquin pour demander un rapport sur les conditions de travail des gens qui devront porter le tout inox dans les cantines quand le plastique aura été aboli. Enfin bref, ce que je veux dire par là. C'est que oui, on défend le pouvoir d'achat et que le plastique s'inscrit clairement dans
cette consommation populaire, justement.
Bien sûr.
Et on peut retourner aussi la question, et peut-être que je pourrais justement vous interroger là-dessus. On sait que l'électorat macroniste, l'électorat bobo, l'électorat des centres-villes prend parfois des mesures qui vont chatouiller ce que aime un peuple qu'il n'aime pas forcément beaucoup, parce qu'il est caricaturé comme beauf, parce qu'on n'aime pas forcément son mauvais goût, etc. On se souvient par exemple de la volonté d'interdire le cirque qui est un divertissement très populaire au prétexte de la souffrance animale. On se souvient par exemple du foie gras bashing, puisque c'est un produit qui s'est démocratisé sur toutes les tables, y compris populaire. Est-ce que derrière la volonté d'interdire le plastique, il n'y a pas une espèce de prolophobie ordinaire? On va s'en prendre à ce que les gens consomment, à leur mode de consommation ordinaire, à ce qui n'est pas cher, à ce qui n'est pas forcément très bon goût, pas très beau, etc.
Alors, c'est une théorie intéressante, et c'est vrai que quand on y pense, d'une certaine manière, quel est le premier produit acheté en France, toutes catégories confondues, tout. C'est la bouteille d'eau d'autres sources, et c'est la marque cristalline. Le deuxième produit le plus acheté en France, c'est encore la marque cristalline sous un autre format. Et le troisième, c'est le Coca-Cola. Donc ce sont des produits dans du plastique. Les gens n'achètent pas le plastique, ils achètent le produit qui est à l'intérieur. Mais contrairement à ce qu'on nous raconte, parce que c'est quand même un point important, et je pense quand même que le RN l'a compris, et j'espère que les autres partis politiques le comprennent aussi, c'est que contrairement à ce qu'on nous a dit, la population veut le changement, il ne veut plus de plastique, ils veulent une transition vers autre chose. Quand on regarde ce que les gens achètent, ils achètent des produits emballés dans du plastique, ce qui veut dire que le plastique ne leur fait pas peur. Donc effectivement, le plastique, c'est le matériau du peuple. Mmh. C'est le matériau populaire parce que ça permet effectivement de pouvoir produire à bas coût. Hein, donc à bas coût ici, hein, pas encore en Azerbaïdjan. Et donc en l'occurrence, c'est ça qui a permis sa démocratisation, parce qu'en fait, ça demande très peu d'énergie. Vous prenez le verre, 1400 degrés. Ça, les émissions de CO2, c'est pas grave. Le métal, c'est pareil. Les fonderies, c'est beaucoup d'énergie. Le carton, le papier carton, 500 litres d'eau pour faire un kilo de papier. 2 litres d'eau pour faire un kilo de plastique. Vous voyez, ces paramètres écologiques, ça, les verts n'en parlent pas. Ça, c'est pour eux, c'est pas des critères. Et en l'occurrence, ça demande peu d'énergie. On peut produire en masse, on peut faire...
Excusez-moi. Allez, j'avais pensé m'être mis en...
Tout va bien.
Ce sont les joies du direct.
Ouais, donc, écoute, les joies du direct, voilà. J'étais même en mode de pas déranger, donc je sais pas comment il a réussi à passer. D'ailleurs, c'était TF1, soit dit en passant. Et,
Il nous écoute. Alors, si, non, pardon.
Tout à fait, mais en l'occurrence, c'est effectivement le plastique a popularisé des choses. On se rappelle les collants en nylon, hein, la liberté de la femme, ça a donné aussi d'une certaine manière cette forme de liberté. Les années 50-60, c'était vraiment une mode incroyable. Et même encore aujourd'hui, vous avez encore les Iraniens qui taquinent, en tous les cas leur propagande a taquiné, on va dire, les Occidentaux avec leurs fameux vidéos avec les Lego. Hein. Vous savez, les Lego, c'est de l'ABS, on va dire, c'est de l'acronitryl butadiène styrène. Et en l'occurrence,
moi aussi, je suis capable de dire polyéthyle tétraphtalate au lieu de dire PET.
Mais, mais surtout, voilà. le butadiène, c'est un point important, il est produit en masse, il passe par Hormuz. Et en l'occurrence, il est bloqué. Donc, moi, quand j'ai vu effectivement les vidéos, je dis, mais ils sont en train de nous narguer effectivement par rapport à ça. Mais oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait ce côté, on va dire, de mépris vis-à-vis de ceux qui sont effectivement, qui consomment des produits en plastique. Mais le plastique, vous avez également le carbone dans les voitures de sport. Les gens ne savent pas que quand ils payent 10 000 euros l'option carbone dans une Porsche, mais en fait, c'est des bouts de plastique qui coûtent 10 000, enfin, qu'on lui fait payer 10 000 euros. Donc, vous avez tous les composites là, pour les bateaux, vous avez pour les avions, tous les vêtements des cosmonautes également sont en plastique également. Vous n'avez pas, les fusées d'ailleurs, la plupart sont faits en matériaux, on va dire, plastique et composite. C'est pas un matériau cheap, c'est le matériau d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que les ONG d'ailleurs le reconnaissent, ils disent, il y aura 2 à 3 fois plus de plastique en production dans les 20 ou 30 prochaines années. C'est la phrase qui revient en permanence. Bah, très bien, moi je suis pragmatique. Combien d'industries vous connaissez avec des telles marges de progression? Je veux dire, ni l'aluminium, ni le verre, ni le papier carton ont ce genre de vision. Donc, autant...
donc si on a envie de réindustrialiser la France, il faut plastifier.
Exactement, exactement.
En tout cas, c'est une possibilité qui doit être laissée. Il faut une diversité des matériaux. Et en tout cas, la plasturgie a toute sa place dans l'avenir de l'industrie française. Si on arrive au pouvoir, et s'il n'y a que nous qui, bien sûr, pourrons sauvegarder l'industrie en l'état, parce qu'actuellement, c'est extraordinairement compliqué.
Alors, ce qu'il y a de compliqué, c'est d'une part, effectivement, ces législations tatillonnes, ces marchés qu'on veut restreindre. C'est aussi l'image, effectivement, du matériau du peuple, comme vous disiez, l'un et l'autre, et donc forcément suspect, comme tout le peuple, puisque ce qui vient du peuple ne plaît pas aux élites. Dans le combat du Rassemblement national, il n'y a pas une culture du plastique. Il y a vraiment, à chaque fois, l'idée d'éviter de s'aborder ce qui existe encore.
C'est ça, et de permettre la mise sur le marché d'un bien qui coûte peu cher et qui est facile à produire, avec néanmoins la question de la fin de vie qui se pose et que je ne minimise absolument pas. Et d'où le propos sur des politiques de recyclage ambitieuses. Et il y a beaucoup de chemins qui ont été faits. Ça doit être perfectible, mais il y a beaucoup de chemins qui ont été faits. Ça doit être poursuivi.
Voilà, parce qu'il y a de plus en plus de plastiques qui sont recyclables alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant.
Exactement.
Et il y a de plus en plus de moyens de recycler ce plastique alors que là aussi, il y a 30 ans, on ne faisait pas un pull en plastique recyclé alors que maintenant, on peut acheter n'importe quoi chez Decathlon.
Parfois, il y a des incohérences... législative. L'Union européenne impose depuis 2025 un 25% de plastique recyclé, dans les bouteilles notamment, ce qu'on appelle du RPET. Or, malheureusement, une bonne partie de ce RPET vient de Chine, sur des bases purement déclaratives. En fait, ça peut très bien être du plastique vierge, on ne sait pas trop parce que c'est déclaratif. Parce que les capacités de recyclage en France et en Europe ne sont pas assez poussées. Et donc c'est nécessaire. En fait, si on fait ce genre d'obligation réglementaire, il faut s'assurer bien sûr que l'offre sur place puisse répondre. Parce que là, importer, enfin, veut dire de faire de l'économie circulaire... Pour importer au final de l'autre bout du monde, ça n'a évidemment qu'un sens.
Parce qu'effectivement, le transport lui-même ruine, si j'ose dire, le bénéfice écologique de l'utilisation du plastique recyclé. Ce genre de vue économique et qui débouche évidemment sur une vue politique, vous le rencontrez dans le plastique, vous l'avez rencontré dans d'autres filières, puisque voilà, c'est votre spécialité à la base, non pas la plasturgie, mais justement toutes ces économies circulaires.
Moi, je pense, au-delà de ça, je pense à l'agriculture, par exemple, avec le débat qu'il y a eu sur la loi du plomb, sur le fait que si on a, enfin, on va dire, toute nouvelle norme que l'on met en France, qui a pour vocation d'aggraver notre dépendance aux importations, finalement, ne fait que ruiner notre capacité de production sans vertu écologique. Et sur le reste de l'économie circulaire, là, j'ai pas de.
Vous n'avez pas d'exemple en tête immédiat?
Après, c'est assez varié. Hein. Il y a beaucoup de sujets. Il y a les voitures.
Oui, il y a les voitures, les meubles. Enfin, chaque produit a sa filière en théorie. Et est-ce que justement les filières sont réellement mises en place pour permettre une économie circulaire vertueuse, ou est-ce qu'il y a, un affichage de façade avec parfois des filières qui sont mises en place et en fait qui n'arrivent pas à traiter
ça
véritablement.
Ça peut arriver, malheureusement. Il y a quand même beaucoup de.
Dans le BTP notamment, j'avais l'impression qu'on avait fait des efforts démesurés pour essayer de retraiter tous les déchets de chantier sans y arriver.
Mais si on associe justement la bouteille en verre à l'économie circulaire, c'est qu'on se souvient tous de cette époque où on avait consigné la bouteille chez l'épicier et on allait la rechercher. La dame qui travaillait chez nous demandait de faire ça toujours, ça m'ennuyait beaucoup d'ailleurs, d'aller porter les bouteilles en verre pour ensuite récupérer 2 ou 3 euros. De telle façon à. Parce que le recyclage du plastique n'est pas forcément rentable pour le consommateur ou le particulier.
Alors, ça, c'est la consigne pour ce qu'on appelle pour réemploi. Ça veut dire qu'en fait, vous ramenez le produit, la bouteille en verre, elle est lavée, et ensuite elle revient sur la circulation. Oui, on avait du verre. Moi, j'entends effectivement beaucoup d'écologistes qui nous disent mais avant, on faisait comme ça. Oui, mais bon, avant, on n'avait pas l'électricité, on n'avait pas le nucléaire, on n'avait pas tout ça. Enfin, ce côté, on va dire, revenir dans le passé, ça ne marche pas. Le plastique, comme vous l'avez dit, c'est le poids, c'est l'ennemi du bien. Hein. Donc, en l'occurrence, transporter des choses qui sont plus lourdes, automatiquement, c'est consommer plus de carburant lors du transport. Je prends encore l'exemple de Cristaline, que je cite d'ailleurs dans mon livre. Tout simplement, ils ont fait le calcul. S'ils remplaçaient toutes les bouteilles en plastique, d'autres sources qu'ils ont, par des bouteilles en verre, c'est 10 000 camions en plus sur les routes. Donc, c'est simple, c'est 10 000 camions en plus sur les routes. Donc, qu'est-ce qui est mieux au niveau de l'écologie? Et donc, à un moment donné, le consommateur aussi, il y a aussi cette facilité de pouvoir prendre, c'est léger, c'est facile. On est dans une société, entre guillemets, effectivement, de la consommation. Donc, à un moment donné, les gens n'ont pas forcément envie tout le temps de faire une démarche, de ramener quelque chose et de laver. Alors, pour le coup, il y a la consigne pour les bouteilles en plastique qui va arriver, parce que l'Union européenne va l'imposer en 2029 et le gouvernement est en train effectivement de se battre pour essayer de l'imposer. Moi, je soutiens personnellement cette mesure. Et là, ce n'est pas pour laver la bouteille en plastique et la remettre en circulation. Ce sont des machines qui existent déjà, mais à titre, on va dire, expérimental pour le moment, j'ai envie de dire, que vous mettez une bouteille, votre bouteille d'eau dans la machine et vous récupérez un bon d'achat ou vous récupérez une somme qui était, que vous aviez payée au moment de l'acheter.
Exactement. C'est ce que je fais au Super U de Sablé-sur-Sarthe.
En Allemagne, c'est automatique.
En Allemagne, ça fait depuis les années 90 que ça existe. Il y a des vidéos sur Internet où vous mettez une bouteille en plastique dans la rue, vous avez au moins 10 SDF qui viennent l'attraper pour le mettre à la machine. Il n'y a pas une bouteille qui traîne dans la rue.
Il n'y a pas un supermarché sans la machine où on...
Alors, là où il faut faire attention, justement, c'est d'éviter les erreurs des autres, c'est-à-dire de ne pas mettre ces machines que dans des supermarchés, parce que sinon, vous allez vider les centres-villes et automatiquement, tout le monde va retourner encore que dans les GMS. Il faut essayer de dispatcher ça, on va dire, même dans les villages, dans les villes, pour qu'il y ait, on va dire, un maillage territorial qui permette, comme on a des poubelles quasiment partout, qu'on ait des machines relativement bien réparties et qui permettent aux gens de pouvoir ramener leurs bouteilles, récupérer leurs bons et au final avoir en fait une bouteille en plastique qui là, pour le coup, va être extrêmement pure d'un point de vue recyclé parce qu'il n'aura pas été mélangé avec votre poubelle jaune justement. Parce que le problème de la poubelle jaune aujourd'hui, c'est que vous mettez tout dedans, c'est un geste de tri facile, il faut continuer à le faire, c'est très bien. Sauf que malheureusement, vous avez beaucoup de choses qui peuvent contaminer, on va dire, l'un et l'autre. Vous avez parfois des boîtes à pizza dans lesquelles vous avez parfois des additifs qui sont dessus ou des couleurs ou même des PFAS d'ailleurs qui peuvent se migrer également et qui peuvent contaminer l'autre bouteille. Donc, avoir un flux séparé, c'est génial. D'ailleurs, vous allez en Corée, vous allez à l'aéroport de Bucarest, vous arrivez, vous avez une poubelle pour le métal, une poubelle pour le plastique, une poubelle pour papier carton. Ici, on a décidé de tout mettre dans la même poubelle. Ça facilite, oui, mais par contre, tout malheureusement n'est pas recyclé. Et on est encore un des derniers pays européens à avoir un taux d'enfouissement. On met sous terre des emballages plastiques, 25% à peu près, entre 25 et 30, alors que l'Allemagne a arrêté, la Suisse a arrêté, la Belgique a arrêté, l'Autriche a arrêté, les Pays-Bas ont arrêté. Et nous, en France, on dit on est les plus écologistes, mais on a 25 à 30% de mise en décharge enfouissement et une grosse partie également, quasiment 50-55% d'incinération. Alors là-dessus, il y a des débats. Il y en a qui disent l'incinération, c'est pas mal pour faire de l'énergie. Moi, je philosophiquement, je me dis, on est dans un pays nucléarisé, commencer à brûler des déchets pour faire de l'énergie, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça aussi? Donc, à un moment donné. Donc,
en même temps, la CNIM était l'un des principaux fabricants d'incinérateurs et c'était une entreprise française.
Manon Bouquin. Sur cette histoire de consigne, ce qui est intéressant, c'est un sujet qui n'est pas évident, hein, parce que les collectivités locales, il faut le savoir, sont debout parce que c'est elles, en fait, qui s'occupent. Elles reçoivent l'argent de l'éco-organisme Citeo. Citeo qui représente les industriels du plastique.
Et l'éco aussi.
Et voilà. Et en fait, elle s'occupe du bac jaune et elle récupère la vente du PET,
ah oui.
Qui est rentable. Alors, le débat est un peu compliqué parce que les communes disent en gros, on nous demande de s'occuper de ce qui n'est pas rentable et ce qui est rentable, on doit le laisser aux industriels. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un débat qui est en cours qui n'est vraiment pas facile à trancher. J'entends les inquiétudes, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que les écolos sont contre la consigne plastique parce qu'ils sont contre le plastique tout court.
Ah oui.
Et c'est la question que j'ai posée ce matin au ministre de l'Environnement. En fait, si vous voulez en finir avec la bouteille en plastique d'ici 10 ans, pourquoi aujourd'hui on investirait des millions d'euros, millions d'euros, pour mettre en place ce système de consigne à usage unique, puisqu'il s'agit d'en sortir. Donc en fait, si on met la consigne, ça veut dire qu'on continue le plastique. Sinon, c'est une incohérence totale.
Alors, ce genre d'incertitude législative, c'est typiquement ce qui freine en fait l'innovation en France et ce qui freine l'investissement en France. Si un industriel ne sait pas à quelle sauce il va être mangé dans 5 ans, il n'a aucune raison d'investir aujourd'hui.
C'est exactement ça. Et les exemples sont légion, oui, effectivement.
Mais le fait est qu'on oublie un peu ce qu'étaient les grandes périodes de redressement économique et de réindustrialisation de la France. La dernière est déjà vieille, c'est les années 60, c'est le général de Gaulle qui, à toute force, disait il faut équiper la France, il faut que les Français mangent normalement, il faut qu'ils aient des capacités d'épargne pour investir dans l'industrie, pour acheter des DS, pour acheter, etc. Donc on fait une industrie agroalimentaire productiviste, donc on fait effectivement une grande distribution, tout ça étant lié, hein, il n'y a pas de grande distribution sans industrie agroalimentaire, et puis on oublie ce maillon essentiel qui est effectivement le plastique, puisque cette nourriture, désormais démultipliée, désormais vendue dans les grandes surfaces, va forcément être emballée, forcément être mise sur les gens dans les paquets, etc. Bon. Donc il y a un peu ce maillon oublié de la réindustrialisation de la France. Mais justement, comme le dit Richard de Sèze, on lance des cris d'alarme, on parle réindustrialisation, tous les Français sont pour, théoriquement. Est-ce qu'il y a forcément beaucoup de vocations pour travailler dans l'industrie plastique? Dès lors qu'on voit les conséquences effectives de l'industrialisation, qu'il y ait du béton dans les campagnes, qu'il y ait éventuellement un sac plastique qui traîne, parfois ça peut arriver, et aussitôt, effectivement, on est vent debout. Cher Manon Bouquin, vous abordez une campagne présidentielle bientôt, et l'industrialisation sera un des thèmes très très forts de cette campagne. Et d'ailleurs, c'est un peu votre métier, puisque je ne sais pas trop comment on qualifie, si c'est organisation patronale, ou lobbyiste ou...
Est-ce que la CFDT, on l'appelle le lobby des travailleurs? Moi, on est un syndicat patronal, Code du travail. On défend des intérêts matériels et moraux, effectivement, de nos membres.
L'équivalent de l'IUMM pour la plasturgie.
Exactement. Voilà. Mais alors, au niveau même, d'ailleurs, français, européen, on a des entreprises françaises qui ont, par exemple, des filiales au niveau, par exemple, Allemagne ou ailleurs, qui sont aussi également membres. On a des minéraliers. On a le syndicat des eaux de source minérales qui est adhérente. Ils vendent pas du plastique, ils vendent de l'eau, mais ils ont besoin de plastique. Et on a surtout beaucoup d'agriculteurs. J'ai le plus grand producteur d'haricots verts, les pêches abricots nectarines, parce que eux, en l'occurrence, pareil pour AGEC, la France souhaitait interdire les emballages plastiques pour les fruits et légumes. Ils ont dit, on va passer au papier carton. Producteur d'haricots verts, 1 million d'euros, ça lui a coûté cette histoire. Et à la fin, la décision, le décret a été annulé. Et au final, même le gouvernement, dans la DADU, dans ce qu'on appelle la fameuse loi d'adaptation du droit français au droit de l'Union européenne, a dit, l'Union européenne ne nous demande pas ça, on va l'enlever, quoi. Oui, mais il a perdu 1 million d'euros à cause de vos histoires. Donc, à un moment donné, on regroupe effectivement un écosystème, mais de manière transparente. Moi, vous savez qui je suis, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne me cache pas. Vous avez d'autres, vous avez des intérêts, vous avez des associations qui, aujourd'hui, viennent en se montrant sous le côté angélique des choses, mais qui ont des intérêts financiers derrière. Vous savez, il y a eu le fameux rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des risques sur fait encore par Philippe Bolot qui s'appelle les impacts des plastiques sur la santé. Mais qui est allé vérifier que justement dans des personnes qui étaient auditionnées, vous en aviez un qui est conseiller scientifique dans une fondation qui est financée par le lobby du verre, et vous en avez un autre qui appartient à la fondation Minderoo, qui est une fondation fondée par un milliardaire australien qui est dans l'acier. Ils ont été auditionnés par M. Philippe Bolot, qui n'a pas pris la peine d'auditionner un seul industriel pour arriver à une conclusion. Les plastiques, c'est dangereux et donc il faut essayer de trouver une solution et donc arrêter ou ralentir ou réduire la production. On est dans une situation et vous vous dites pourquoi il n'y a pas de vocation, mais quand vous matraquez matin, midi et soir que l'industrie c'est sale, que t'es dans le pétrole, ah c'est pas bien. Loïc Le Floch-Prigent par exemple, l'ancien vice-président d'Elf était notre vice-président, il me disait mais moi j'ai les enfants qui rentraient de l'école en me disant mais tu travailles pour le pétrolier, t'es vraiment un voyou, t'es le grand diable. C'est pareil pour le plastique. Par contre, vous allez de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, j'ai vu en Tunisie ou au Maghreb, ils adorent l'industrie plastique. Ils ont un niveau de compétence incroyable. Et ils sont fiers de bosser dans l'industrie plastique. Ils sont fiers. Parce que pour eux, le plastique, c'est effectivement avoir accès à l'eau potable, à pouvoir manger convenablement. Quand vous avez des climats très chauds, vous ne pouvez pas mettre du papier carton, ça ne va pas tenir. Le verre dans des routes cabossées, vous n'allez pas mettre des choses qui sont en verre. Il faut mettre quelque chose qui puisse tenir les chocs, etc.
Heureusement qu'il y avait des bouteilles en plastique quand il fallait approvisionner Mayotte en eau.
Mayotte en eau, mais...
Oui.
Et vous citez un événement plus significatif.
Oui, mais après la tempête.
Tout à fait, mais l'événement qui m'a le plus amusé, si on peut dire, c'est la fameuse flottille pour Gaza. Quand vous voyez, à un moment donné, quand le navire a été arraisonné, que le ministre israélien est allé visiter le bateau, mais vous avez des déchets plastiques partout dans le dedans. Vous aviez des bouteilles, vous aviez des emballages plastiques, des gens qui sont, et les filles qui aujourd'hui nous disent que le plastique, c'est le grand danger. J'ai vu des photos de Rima Hassan accepter de prendre un sandwich emballé dans du plastique. D'ailleurs, je pense que s'il n'avait pas été emballé, il ne l'aurait peut-être pas pris, parce qu'ils auraient dit peut-être qu'ils l'ont contaminé avec quelque chose. Donc au moins là, il est scellé, et au moins je peux le manger. Donc on voit quand même qu'il y a vraiment un deux poids, deux mesures. Je veux dire, quand vous faites de l'humanitaire, quand on envoie des vivres à des gens, on ne les envoie pas en vrac. On ne va pas envoyer du verre. Vous envoyez des produits qui sont emballés dans du plastique. Et même le vrac, pour, entre guillemets, ce qu'on appelle les bobos, même si, bon, voilà, il y a des gens qui aiment le vrac, mais il n'arrive pas tout seul dans le trémie. Je veux dire, ils sont emballés. Le vrac, c'est de l'emballage plastique caché. Donc, c'est juste des emballages plus grands.
Et donc, alors... Non, Lucien, vous aviez esquissé une excellente question.
Mais justement, que j'aimerais...
J'avais peur que vous ne posiez encore une question.
Parce que monsieur nous a expliqué que justement, pour réindustrialiser la France, il faut peut-être avoir une bonne image de l'industrie. Et c'est la question qu'on pourrait poser à Manon Bouquin. Effectivement, comment rendre crédible la réindustrialisation de la France alors que tous les signaux ne sont pas au vert?
Déjà, il y a la question, de la surtransposition à aborder. Et effectivement, sur la crise de vocation, mais vous avez entièrement raison, il y a un problème avec les filières professionnelles en France. Il faut absolument revaloriser le métier d'ouvrier, de contremaître, tous ces métiers qui sont magnifiques, qui demandent un savoir-faire technique qui est extrêmement valorisé et aujourd'hui qu'on néglige parce qu'on envoie les enfants en tout général avec la frustration que ça génère parce que bon... à bac plus 5 en sociologie. Enfin, j'ai rien contre, mais on sait très bien que les débouchés sont pas très nombreux et ça va finir.
Militant éléphiste, quoi.
Voilà. Non, mais voilà, où ça finit, par exemple, ça finit dans des débouchés professionnels qui sont jugés pas à la hauteur des études qu'on a fait pour alors que travailler pour l'industrie, c'est exigeant, ça peut être bien payé et puis on produit quelque chose et ça a du sens. Enfin, je pense vraiment que la production, le fait de travailler de ses mains a énormément de sens et c'est quelque chose. Enfin, nous, par exemple, on est pour la fin du collège unique et l'apprentissage dès 14 ans.
Alors, cette réindustrialisation, c'est le grand échec de la Macronie. Les constructions d'usines sont en berne, on en construit de moins en moins chaque année. On a supprimé énormément d'emplois industriels, malgré les entourloupes de la DGE et ses mauvais calculs qui expliquent que ces emplois repartent à la hausse. Quel est le plan du RN pour faire une véritable réindustrialisation du territoire?
C'est assez vaste. Alors déjà, il n'y a pas magique, mais je pense que avant tout, là, je vous répondrai que la France doit redevenir un paradis énergétique. Donc, ça veut dire s'appuyer sur sa filière nucléaire. Ça veut dire se débarrasser du mécanisme de fixation des prix européens d'électricité. Vous savez, qui fait que le prix d'électricité peut être fixé sur la dernière centrale appelée. Et si c'est du charbon, allemand, enfin, ça se fixe sur le prix du charbon allemand. Et donc, c'est quelque chose. Je veux dire, le nucléaire permet de produire de l'électricité à bas coût et c'est notre dernier avantage compétitif. Il faut absolument pouvoir le libérer, et ce que n'a pas fait Macron. Macron a fermé Fessenheim, Macron a subi l'Union européenne quand elle refusait de considérer l'énergie nucléaire comme une énergie décarbonée. Et aussi une question que moi j'aime bien poser aux industriels que je rencontre, c'est faites-nous un catalogue des normes. Aujourd'hui, on parle, je crois, de 400 000 normes qui existent, autant d'un pot de papier qui grèvent la compétitivité des entreprises. Et on aime bien demander aux entrepreneurs, dites-nous, allez, mettez en vert les normes dont vous jugez qu'elles sont utiles, nécessaires. En orange, les normes qui sont utiles, mais qui sont dévoyées et qui devraient être améliorées. Et en rouge, celles qui ne servent à rien et qui sont un boulet de compétitivité. Après, je suis pas une spécialiste de l'industrie, je veux dire, je peux pas vous répondre extrêmement précisément, mais sur la question de l'inflation normative et de l'énergie nucléaire, ça me paraît. Et puis aussi la question des impôts de production. On a les impôts de production des plus élevés du monde, je crois. C'est débile parce qu'en fait, des impôts trop lourds. Baissent la productivité. Qui dit moins de productivité dit moins d'emplois. Moins de chômage, un contribuable qui est plus solvable. Et en fait, on a atteint un niveau aujourd'hui, l'impôt est si haut qu'au final, le contributeur n'est plus solvable et que même pour l'État, c'est une perte de recettes.
On va faire ça. Hein, d'abord, on va espérer que vous allez gagner. Voilà, c'est la neutralité selon Radio Courtoisie. Ensuite, on va espérer que vous serez ministre et on va espérer surtout que vous aussi, chers auditeurs, vous penserez à soutenir Radio Courtoisie, puisque nous aussi, on essaye de faire quelque chose et on a besoin de votre argent. Voilà, soutenir.rc.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Manon Bouquin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Joseph Taïeffé. Merci, Lucien, pour vos excellentes questions. Et je vous laisse dans les mains d'Aline, et qui ne sera pas là demain, ou peut-être si, qui sera encore là demain, pour vous accueillir dans le Restons Courtois d'Arthur de Vatrigan.
Ça suffit maintenant!
Au revoir.